météo. J'allais dire de ce lundi, mais non, de la semaine.
Ah bah de la semaine, parce qu'effectivement, on va avoir du soleil toute la semaine avec des températures en hausse. Et déjà aujourd'hui, effectivement, c'est le retour au calme. Alors, il reste parfois quelques petits nuages qui traînent ce matin, mais ça ne va pas durer. On pourra avoir une petite averse vers les Alpes, mais c'est tout. Pas mal de vent près de la Méditerranée. Puis donc, soleil ultra généreux avec des températures en hausse cet après-midi dans l'ouest. Il fera souvent 24 à 28 degrés sur le pays. On ira jusqu'à 32 près de la Méditerranée à Montpellier et Bastia.
Vous êtes bien réveillé sur RMC avec Ecovax et sa...
Bon réveil à tous sur RMC, il est 5h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info, toute l'actu en direct à 5h, c'est votre journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous, encore des échanges de tirs toute la nuit entre Israël et l'Iran. Détonation à Jérusalem entendue cette nuit au moment où les dirigeants du G7 arrivent au Canada. S'assurer coûte de plus en plus cher, plus 12,8% pour les assurances habitation selon des chiffres qu'on vous dévoile ce matin sur RMC. Et puis c'est aujourd'hui que commence le bac avec l'épreuve de philo ce matin à 8h pour plus de 530 000 candidats.
Les bombardements ont continué cette nuit au Moyen-Orient.
Oui, au matin du quatrième jour de ce conflit Israël-Iran. Cette nuit, les Israéliens disaient viser Téhéran, une ville sainte et des installations militaires sur le sol donc iranien. Bombardement auquel les Iraniens ont promis une réponse dévastatrice. Ce sont les mots qui sont employés. De fortes détonations ont été entendues à Jérusalem. Et l'armée israélienne a annoncé il y a quelques minutes une nouvelle salve de missiles iraniens qu'elle tentait d'intercepter avec son dôme de fer mis à mal durant le week-end. Et c'est inédit dans la région de Tel Aviv, Amélie Courté.
Ces dernières heures, à chaque sirène d'alerte, Julie et ses quatre enfants dévalent les escaliers de leur immeuble jusqu'à l'abri au rez-de-chaussée.
On a entendu un énorme boom avec des vibrations. C'était très terrifiant. On a été choqués. On s'est rendu compte effectivement de l'ampleur du désastre. Un vrai chaos. La foudre peut tomber à deux pas de chez nous.
Cette mère ne pouvait pas imaginer qu'une frappe puisse toucher un immeuble à 5 minutes de chez elle et tuer plusieurs personnes. Alors, comme elle peut, elle tente de rassurer son garçon de 7 ans.
Il a conscience de la gravité. Ça fait depuis jeudi soir, il ne me décolle pas d'une semelle. Mais bon, c'est dur parce que les missiles d'Iran, c'est vraiment intense. On sait qu'on a ouvert un nouveau front là.
Malgré tout, elle soutient cette guerre qu'elle qualifie de nécessaire pour la survie d'Israël. Mais il faut qu'elle se termine rapidement, espère Sarah, une autre habitante de Bat Yam.
On a changé d'appartement parce que l'appartement est plus vivable. Il y a des morceaux de verre partout, les fenêtres ont éclaté. Il y a toujours cette crainte de prochaine frappe, mais je dis qu'on va dans les abris et que ça va aller.
Et ces deux habitantes l'assurent, elles refusent de céder à la peur.
Le bilan hier soir, après ces trois premiers jours de ce conflit, était d'au moins 224 morts côté iranien, 13 côté israélien. Regain de tension qui a pour origine, d'après Israël, qui dit se sentir menacé de façon existentielle, qui a pour origine donc le programme nucléaire de l'Iran. Entièrement civil, ça c'est ce qu'assurent les Iraniens, mais cette prolifération est une menace, a dit Emmanuel Macron hier soir depuis le Groenland, en chemin pour le G7, en assumant sa position sur ce conflit, Sébastien Krebs.
Oui, le président français sur un fil qui réaffirme son soutien à la sécurité d'Israël sans pour autant approuver les frappes, mais sans les condamner non plus. Emmanuel Macron contraint de se justifier.
J'ai dit vendredi très clairement que la France était préoccupée par la prolifération nucléaire et les activités nucléaires en cours de l'Iran. Et que celle-ci constituait une menace très claire pour toute la région et même pour nous-mêmes. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai cautionné quoi que ce soit.
La France n'a pas participé aux opérations, répète Emmanuel Macron, et n'a pas été sollicitée à ce stade pour aider Israël à se protéger. Le chef de l'État répète que le sujet nucléaire doit se régler autour d'une table.
Nous appelons au plus vite possible à un retour des discussions.
C'est ce qu'il redira tout à l'heure au G7, tout en reconnaissant entre les lignes que ni la France ni l'Europe n'ont les moyens d'imposer ces négociations. Les États-Unis, eux, en ont la capacité, dit-il.
Sommet du G7 qui s'ouvre pour trois jours dans les Rocheuses au Canada. Donald Trump y est arrivé il y a quelques minutes et son premier grand sommet mondial depuis son retour à la Maison-Blanche.
5h04 sur RMC et cette info qu'on vous révèle en exclu ce matin, les prix des assurances continuent de s'envoler.
Oui, hausse record en 2025 d'après l'étude Assureland qu'on vous dévoile donc ce matin. Nous apprenons qu'un Français dépense en moyenne 1000 euros par an en assurance, plus 12,8% pour l'assurance habitation, plus 6,8%. Ça c'est sur un an pour l'assurance auto. Et la région sud est celle où la la hausse est la plus importante. Vous y êtes pour RMC, Anna Jojard.
La facture a plus de mal à passer cette année pour Salah, qui a deux véhicules à assurer.
Au total, je suis à 400 euros par mois. C'est vrai que c'est un peu abusé parfois. Même si on a une maison, qu'on garde la voiture dans le garage, ça reste quand même assez cher.
C'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur que la hausse est la plus forte. Plus de 16% d'augmentation pour l'assurance auto. Et pour les jeunes conducteurs, c'est encore pire. Justine l'a bien remarqué, ses tarifs mensuels ont explosé.
Ça pouvait monter à presque 200 euros l'assurance. Donc j'ai préféré me mettre sur l'assurance de mon père, qui est du coup en deuxième conductrice, me permet d'avoir un tarif beaucoup moins cher. Et ça fait quand même 150 euros.
Les assurances habitation subissent, elles, une hausse de plus de 13% dans la région. C'est 20 euros de plus par mois pour Ghislaine.
Si ça continue à augmenter, combien de temps on va continuer à pouvoir régler nos factures?
Les assurances du quotidien reviennent désormais à plus de 1000 euros par an en moyenne sur tout le territoire. Stéphanie Durafour est la porte-parole d'Assureland.com.
En assurance auto, on va avoir des coûts de réparation qui sont de plus en plus chers. Et puis en assurance habitation, on a le poids des catastrophes climatiques avec des coûts de réparation qui sont également beaucoup plus élevés.
Un conseil, n'hésitez pas à faire le tour des offres concurrentes et à renégocier vos tarifs avec votre assureur.
Et ça va vous faire réagir, j'en suis sûr, ce matin au 32-16. Racontez-nous, est-ce que vous l'avez constaté sur vos cotisations? Est-ce que ça a fortement augmenté de votre côté? Est-ce que vous avez renoncé peut-être à certaines clauses, certaines options? Est-ce que vous n'êtes plus assuré? Est-ce que vous le constatez aussi autour de vous, ces difficultés pour s'assurer, pour payer ces cotisations d'assurance? Le 32-16 est ouvert pour tous vos témoignages.
Comment rétablir la paix dans le monde? Ça pourrait être un des sujets du bac philo qui commence aujourd'hui, la fameuse épreuve pour plus de 530 000 candidats qui vont la passer, le baccalauréat qui s'est obtenu avec un taux de réussite supérieur à 91% l'année dernière. Ça n'empêche pas un petit coup de stress quand même ce matin, Louis Salé.
Son bac, Lina espère simplement le décrocher car sa place en licence a déjà été validée sur Parcoursup.
En vrai, j'étais acceptée où je voulais être. Franchement, je serais hyper contente si j'ai mon bac.
Mais la plupart des élèves ne visent pas seulement le diplôme à cause des études supérieures notamment.
Non, je vise la mention parce que je vise des études assez hautes. Donc si je veux me réorienter, je pense qu'un bon bac, ce serait bénéfique pour moi.
Bah oui, j'ai la pression quand même. Moi, je vais faire une école de design et on m'a demandé notamment d'avoir une moyenne de 16.
D'autres souhaitent obtenir cette mention pour leur fierté personnelle. C'est le cas d'Aaron.
Le bac, je le vois comme une étape qui définit toute ma scolarité. Ça veut dire que plus tard, quand je verrai ce que j'ai eu, je pourrai voir que je travaillais bien à l'école quand même, si j'ai une bonne mention par exemple.
Et c'est aussi le cas des terminales de Thierry Gagné, prof d'histoire géo à Paris.
Il y a pour faire plaisir aux parents, il y a je pense pour se faire plaisir à eux-mêmes, parce que c'est vrai qu'avoir la récompense de son travail, c'est quand même une bonne chose. Un bon bac, pour eux, c'est vraiment avec une mention, et la meilleure mention possible.
L'an dernier, moins de 10% des bacheliers ont décroché la mention très bien, qui reste donc difficile à atteindre.
Bah tiens, racontez-nous ce matin au 32-16, est-ce qu'à la maison on vise la mention si vous avez des enfants qui passent le bac à partir d'aujourd'hui? Ce bac, ce rituel évidemment, cette épreuve de philo, ce matin on souhaite bon courage alors, aux candidats qui nous écoutent peut-être à cette heure-ci s'ils sont très stressés, et aux parents, aux familles évidemment. Puis est-ce que c'est toujours aussi important le bac? Tiens, est-ce qu'on peut réussir quand même aujourd'hui sans le bac? Racontez-nous, vous avez réussi sans le bac. Ça aussi, ça nous intéresse toujours d'entendre vos témoignages ce matin au 32-16.
Plus de 91% de réussite l'année dernière. Coup de tonnerre dans le monde auto. Le groupe Renault annonce le départ de son directeur général, Luca De Meo, qui était en place depuis 5 ans, qui était encore aux 24 heures du Mans Auto ce week-end et qui s'en va donc d'après un communiqué du groupe pour de nouveaux défis, en dehors d'ailleurs du secteur automobile.
Et puis enfin le sport, avec les débuts réussis du PSG à la Coupe du Monde des clubs.
Les Parisiens qui ont battu les Espagnols de l'Atlético 4-0, c'était hier, sous la chaleur écrasante de Los Angeles, Valentin Jamin.
Oui, bien plus de 30 degrés au thermomètre pour ce match à la mi-journée sur un petit rythme. Le milieu Vitinha reconnaît que cette victoire est particulière.
Il fait chaud ici aujourd'hui à 7h. Moi, je suis tout rouge. C'était vraiment difficile, mais on essaye de récupérer le plus possible. On essaye de dormir, on essaye de faire le froid, parce qu'à cet moment de la saison, ça peut être décisif.
Le tout dans un stade où les 80 000 spectateurs ont mis longtemps à remplir les tribunes, mais les champions d'Europe sont restés dans la lignée de leur saison, se félicite le capitaine Marquinhos.
Ouais, on a montré que même si on a été champion d'Europe, nous on est encore motivés à aller chercher des bonnes choses. Ça montre notre ambition, la vie continue, les compétitions elles continuent, on est dans une bonne lancée, il ne faut pas s'arrêter.
Luis Enrique, l'entraîneur, s'est même permis de faire entrer des jeunes et tester des choses.
On ouvre un autre chapitre et on veut montrer qu'on peut rester en haut. L'équipe veut continuer de gagner, s'améliorer, le club a faim, les
supporters, les joueurs, c'est une sensation très positive.
Contre les Brésiliens de Botafogo, dans 4 jours, ils devraient aligner une équipe remaniée.
Et les Brésiliens de Botafogo qui mènent 2-0 tiens, cette nuit, jouent en ce moment à la mi-temps contre les Américains de Seattle. Jamais j'aurais pensé donner le résultat de Botafogo-Seattle.
Et vous ne manquez rien d'ailleurs de cette Coupe du Monde des clubs sur la radio digitale, sur l'appli RMC, pour ne pas manquer un seul match de cette Coupe du Monde des clubs. Et donc le PSG, on les retrouve dans 4 jours, c'est ça?
Dans la nuit de jeudi à vendredi, sera 3h du matin contre Botafogo.
Et bien évidemment, on suivra ça aussi de très près dans Charles Matin, ce PSG Botafogo. C'était le journal de Quentin Vinet à 5h09 sur RMC. J'espère que vous l'avez bien écouté, ce journal. Parce que comme chaque matin, oui, on ne perd pas les bonnes habitudes. On vous gâte, vous qui vous levez tôt avec RMC, vous qui écoutez bien toute l'info, on vous pose une question d'actu.
Sur quel score s'est imposé hier soir le PSG face à l'Atlético de Madrid pour son premier match de la Coupe du Monde des clubs?
On vient de vous donner le score à l'instant dans le journal. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez tout de suite le mot actu par SMS au 73216. Actu au 73216. Et ce matin, vous allez remporter
le Wimbot Mini d'Ecovax. Tu sais, c'est le petit robot, le robot laveur de vitres et de fenêtres automatiques et intelligent.
Ah, c'est le robot qui fait rêver. Oui, je
sais. Et qui nettoie tout seul.
Qui nettoie tout seul les vitres, le robot Wimbot d'Ecovax. Il est pour vous. Si vous êtes rapide, là, si vous envoyez tout de suite le mot actu par SMS au 73216, et le gagnant ou la gagnante sera avec nous tout à l'heure en direct à 6h20. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillé sur RMC avec Ecovax et sa gamme de robots lave-vitres Wimbot à spray automatisé qui nettoie vos vitres, baies vitrées et fenêtres impeccablement et en toute sécurité.
Et à 5h10, on part tout de suite au 32-16 sur RMC pour vivre l'actu avec vous. Et c'est Karim qui nous appelle de Cannes ce matin. Bonjour Karim.
Et bonjour Charles.
Salut Karim. D'abord, qu'est-ce que vous faites réveillé de si bonne heure, Karim?
Je suis agent SNCF, je viens de finir la nuit. Je viens de finir ma nuit et je prends la route. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer. Et quand j'ai entendu le sujet, j'ai directement appelé.
Alors, le sujet que vous avez entendu, c'est le foot amateur, c'est ça? Parce qu'on va en parler ce matin sur RMC. Il y a la Fédération Française de Foot qui a dévoilé ses mesures pour lutter contre les violences sur les terrains amateurs. Tout à l'heure, d'ailleurs, à 6h10, je serai avec le président du district du Grand Vaucluse, parce que dans sa région, on teste déjà les mesures proposées, présentées par la Fédé ce week-end. On parle de caméras sur les arbitres, de caméras au bord des terrains aussi, pour les matchs les plus sensibles, instaurer un carton blanc, une suspension temporaire pour les joueurs qui auraient un mauvais comportement, parce que la Fédé, évidemment, fait le constat. Mais comme vous, j'imagine, Karim, que c'est de plus en plus tendu sur les terrains de foot amateurs. Vous-même, vous avez été joueur, entraîneur?
J'ai été joueur, après éducateur, ensuite j'ai fait arbitre. Et aujourd'hui, je suis papa d'un petit garçon qui joue au foot. Et plus on avance, plus c'est pire. On n'arrive plus vraiment. Mais le pire des choses, c'est que à cet âge-là, entre 8, 12 ans, 13 ans, parce qu'après, c'est d'adolescence, donc les jeunes sont un peu plus excités, on va dire. Mais c'est les parents. Il y a un message aux parents, calmez-vous.
Mais c'est ça, parce que, alors juste, j'aimerais revenir sur ce point, Karim. Il y a quelques années, ça existait déjà, hein. Ça n'a pas surgi il y a 3 mois, la violence sur les terrains amateurs. Mais souvent, c'était entre joueurs, et en effet, vous avez raison, c'était plutôt à partir de 15, 16, 17 ans que ça se tendait fortement, qu'il y avait un peu plus de risque de violence entre joueurs, entre supporters, etc. Là, désormais, ça se déporte. Là, à Toulouse, ce week-end, c'est sur lors d'un match de U10, hein, des enfants de moins de 10 ans.
C'est honteux.
Qu'il y a eu une bagarre extrêmement violente avec des parents sur le terrain, etc.
D'une chose, c'est honteux. Et de deux choses, ça ne m'étonne pas, en fait. Quand je vois, moi, les tournois, je vois les matchs de U10,
U11... Mais vous voyez quoi? C'est des parents qui contestent des décisions de l'arbitre?
Parce que les enfants, au final, c'est naïf, c'est gentil, ils perdent, ils gagnent, il y a une décision arbitrale qui est un peu litigieuse, mais ils passent rapidement à autre chose. Mais quand t'as tous les parents qui crient au dehors du terrain, qui s'en prennent à l'arbitre, qui s'en prennent aux dirigeants, qui s'en prennent à l'entraîneur, et pourquoi mon fils il joue pas, et pourquoi si, pourquoi ça, ça rend l'enfant tendu sur le terrain. Il y a beaucoup d'enfants à cet âge-là qui se mettent à pleurer en plein milieu du match.
Mais pas parce qu'ils jouent mal ou parce qu'ils ne prennent pas de plaisir sur le terrain, à cause de ce qui se passe autour, à cause des parents.
Exactement, c'est la pression qui est exercée par les parents autour du terrain qui rend vraiment le jeu néfaste, mais pour tout le monde.
Ouais, c'est ce que dit Stéphane aussi sur Direct Studio, hein, c'est ce qu'il nous dit, le problème c'est les parents qui veulent faire des futurs Mbappé de leur enfant et qui refusent la défaite.
Qui refusent la défaite, qui refusent que leur enfant soit peut-être moins bon parfois, peut-être perturbé par autre chose. Aujourd'hui, il fait très chaud. On demande à des gamins sur des tournois à 30, 32 degrés de faire des choses qui,
Oui, il faut rappeler que les gamins, ils y vont pour s'amuser, pour prendre du plaisir. Pas pour gagner et pas pour devenir Mbappé. Et alors, Karim, ce qui m'intéresse, c'est que vous nous avez dit, j'ai aussi été arbitre sur ces matchs amateurs.
Oh, moi, j'ai arrêté de à partir du. Là, toutes les mesures prises par le. Je veux dire, par la FFF et par les districts, je trouve que c'est du pipeau. Et que c'est.
Bah, ils nous disent que ça fonctionne. Ça a été testé dans 3 districts. J'espère. La caméra J'espère. Sur l'arbitre. Mais... Et quand l'arbitre intervient, si le joueur qui est en face a envie d'être. Un comportement un peu violent, ça peut l'aider à se calmer, peut-être.
L'arbitre
de se dire, tiens, c'est filmé.
Et jeté à l'abandon. Aujourd'hui, moi, j'avais du métier, on va dire. Quand j'arbitrais, je savais ce que je disais, je savais ce que je faisais. Le vice du football, je le comprenais. Donc ça allait encore. Mais des fois, ils envoient des jeunes arbitres de 14, 15 ans arbitrer des U12, des U13, il suffit qu'il ne vienne pas avec son père ou qu'il ne vienne pas avec ses parents et qu'il se retrouve tout seul à arbitrer, mais c'est horrible. Je me mets à la place du gamin. Plusieurs arbitres arrêtent au bout de 1 ou 2 ans parce qu'ils sont dépassés.
Dépassés par la pression mise par les joueurs, les entraîneurs, il y a aussi le bord du terrain pour eux aussi, j'imagine. Hein. Les parents qui crient, ils ne crient pas que sur leur enfant.
Mais c'est ça. Mais même le gamin sort, parce que pour moi, 14-15 ans d'arbitre, c'est un gamin, il sort du terrain, il est effrayé.
Mmh. Oui, Oui, mais c'est un problème, ça, Karim, que ce soit c'est effrayant d'être arbitre.
Moi, j'en veux au district, parce que ces jeunes arbitres-là, ils doivent être accompagnés.
Ouais, il faut des moyens pour autour du terrain aussi, que l'arbitre n'arrive pas seul sur le terrain et qu'il ait quelqu'un pour l'accompagner au bord du terrain, qu'il soit pas juste livré à lui-même. J'entends bien Karim, parce qu'on se retrouve sur un stade, parfois loin de chez soi et seul face à deux équipes et des supporters ou des parents au bord du terrain, ça peut être très compliqué à gérer. Merci Karim pour votre témoignage. C'est la première fois que je vous entends de bonne heure comme ça, Karim.
Exactement, Charles. C'est la première fois, mais c'est un sujet vraiment qui est fâcheux et qui.
Bah, on l'entend. C'est pour ça qu'on le met à la une ce matin et on entend avec votre témoignage à quel point c'est urgent d'agir. Merci Karim. Bah, on va fêter cette première à l'antenne. On va vous envoyer la coque pour smartphone RMC. Et allez-y,
Karim. Je suis juste content de vous avoir parce que depuis le 31, je trouve que votre voix a changé.
Depuis la victoire du PSG en Ligue des Champions. Oui, c'est vrai que le petit nuage se poursuit là avec la Coupe du Monde des clubs là, qu'on vit en ce moment. Merci Karim d'être passé par le 32-16. On vous souhaite bonne journée ou bonne nuit à cette heure-ci.
Merci à vous. Bon courage.
C'est la fin de la nuit de boulot là.
C'est ça. On rentre à la maison.
Eh ben, on vous raccompagne. On fait ça, Karim, aussi à 5h16 sur RMC. Vous faites comme Karim. Vous venez témoigner, évidemment, à tout moment au 32-16. On vit l'actu tous ensemble. Dans un instant, c'est votre histoire. Votre histoire du matin. Et c'est Guillemette Franquet qui vient nous la raconter ce matin. Bonjour, Guillemette.
Salut, Charles. Salut, Géraldine.
Salut.
Et ce matin, je vais vous parler d'un prénom de reine qui fait pourtant polémique dans un village de Savoie.
À tout de suite.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin. Tous les soirs, entre 18h et 20h sur RMC, c'est Roten sans flamme, avec Jérôme Roten.
2 heures de débat foot, autour de l'actu du moment. Des invités d'exception, les analyses d'après-match, d'avant-match, avec la Dream Team Foot RMC.
Et pour détendre tout ça, Julien Cazard vous livre son journal du foot à sa façon.
Roten sans flamme, du lundi au vendredi, 18h-20h sur RMC.
Cette semaine, cap sur le Salon du Bourget, le plus grand rendez-vous aéronautique et spatial au monde, avec RMC. 2300 exposants, 150 aéronefs, des shows aériens spectaculaires et des expériences immersives à partager en famille. Explorez l'espace, découvrez l'aviation de demain, plongez dans les métiers qui font décoller l'industrie et partagez la passion des femmes de l'aéro et du spatial. Journée grand public, vendredi, samedi et dimanche, info et billetterie sur siae.fr. Le Salon du Bourget, cette semaine, avec RMC.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
5h17, bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC.
L'histoire RMC du jour.
Avec Guillemette Franquet, et ce matin, Guillemette, tu nous racontes l'histoire d'un prénom tout à fait banal, mais qui a fait bondir une mairie savoyarde.
Si je vous dis Elisabeth, vous pensez à quoi? Ça vous évoque quoi, vous, ce prénom?
Ma mère.
Oh, c'est vrai, j'adore
Elisabeth.
Cette réponse.
Bah oui, mais la maman de Charles s'appelle Elisabeth. On est très monarchiste chez moi. Oui.
Et j'ai une cousine aussi qui s'appelle Elisabeth. Voilà.
Bon,
donc on peut le dire, a priori rien de choquant.
Oh non, c'est tout à fait banal.
Et c'est tout à fait banal. Et pourtant, un couple habitant Albertville en Savoie a accueilli en avril dernier leur deuxième enfant, une petite fille. Je vous le donne en mille, ils ont choisi de la prénommer Elisabeth, avec un Z, par contre, comme la reine d'Angleterre, version anglaise. Le papa, Eric, est allé déclarer la naissance à sa mairie. Quelques jours plus tard, ils reçoivent une visite à laquelle ils ne s'attendaient pas. un commissaire de justice, l'homme de loi, venait leur remettre une assignation à comparaître devant la juge aux affaires familiales. En cause, la mairie voulait que la petite Elisabeth change de prénom, car il était contraire à l'intérêt de l'enfant.
Ah oui, il y a un commissaire de justice qui est venu chez eux, mais c'est quoi le problème avec le prénom Elisabeth ?
Mais en fait, c'est pas tant le prénom que l'association avec le nom de famille. Il s'agit de la famille Taylor, et la petite s'appelle donc Elisabeth Taylor. Ah. Oui, comme l'actrice mythique, la star au cinéma, de cinéma aux yeux violets. On la connaît pour son rôle dans le film Cléopâtre, en 63, ses deux Oscars, dans La Vénus au Vison et Qui a peur de Virginia Woolf. Sauf que la mairie savoyarde, elle ne voit pas d'un très bon œil cette homonymie entre l'étoile d'Hollywood des années 50-60 et la petite fille née en 2025. En fait, la ville, elle a eu peur qu'on se moque d'elle, tout simplement, à l'école.
Ouais, mais parce que finalement, du coup, ça veut dire qu'elle a dû changer de prénom. On ne peut pas s'appeler Elisabeth Taylor.
Le papa Eric s'est rendu il y a 10 jours à l'audience. Un peu agacé, hein. Est-ce que la justice n'a pas autre chose à faire ? A-t-il donc notamment déclaré. Mais je vous rassure, Charles, tout est bien qui finit bien pour les parents. La juge aux affaires familiales leur a donné raison. Donc, sauf si le parquet fait appel, le bébé s'appellera bien Elisabeth Taylor. Les parents, eux, évidemment, étaient soulagés. Vous, ça vous choque en 2025 d'avoir son enfant
pas
comme
vraiment,
ça ?
Pas parce que...
Les enfants, ils connaissent pas Elisabeth Taylor. Donc ils vont,
dans la cour de récré. Non, mais c'est pas une star contemporaine, Elisabeth Taylor. Ce serait Céline Dion. Je dirais oui, il va y avoir des références, des moqueries là, dans les 10 prochaines années, mais là, je ne vois pas la petite Elisabeth se faire moquer dans son école savoyarde parce qu'elle s'appelle Taylor. Ça parlera plus aux grands-parents, peut-être, qu'aux enfants de la cour de récré. Je ne sais pas. Non, ça vous choque, vous, Elisabeth Taylor ?
Je ne l'aurais pas fait.
Je ne l'aurais pas fait non plus, mais je ne vois pas en quoi ça dérange en 2025.
Ouais, il y a bien pire. Il y a bien pire, je peux vous le dire, dans les cours de récré en ce moment. Oui, non, mais même là, en ce moment, c'est un peu. Enfin bon. Il y a de nouvelles générations.
Les Anakin, les petits...
Il y a des petits séquoias dans les écoles aujourd'hui. Voilà, il y a des prénoms plus surprenants qu'Elisabeth. Je ne sais pas, on verra à suivre. Peut-être qu'on aura des nouvelles d'Elisabeth Taylor en Savoie dans les années qui viennent. C'était l'histoire de Guillemette Franquet à 5h20. On part au 32-16, on va accueillir Richard qui lui nous appelle de Montpellier. Bonjour Richard.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine.
Bonjour Richard. Salut Richard, comment ça va ce matin ?
Ça va parfaitement bien.
Ça va parfaitement bien, Richard. Vous êtes commercial, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait, commercial.
Mais déjà au boulot, là, à 5h21 ?
Et on part essayer de faire un peu de commerce dans la viande. Je suis dans la viande.
Ah, ok.
Tout, tous les matins.
Et donc, de bonne heure, évidemment, pour le commerce, pour vendre de la viande, en tant que commercial, Richard. Mais alors, vous, ce qui vous a fait réagir ce matin, c'est pas votre boulot, c'est votre activité bénévole, j'ai envie de dire, le week-end, la semaine. Vous êtes éducateur en foot.
Je suis éducateur fédéral, oui.
Avec des gamins de quel âge ?
Pas la catégorie concernée, les
U10. Les U10, vous dites la catégorie concernée parce que ce week-end encore, il y a eu une bagarre générale sur un terrain avec des U10 du côté de Toulouse. Mais surtout, ça vient illustrer la violence, la tension sur les terrains de foot aujourd'hui, les terrains de foot amateurs partout en France. Et la fédération qui présente ses mesures pour la saison prochaine, notamment des caméras sur les arbitres pour filmer tout ce qui se passe sur le terrain. Il y a aussi l'idée, par exemple, d'un carton blanc pour exclure temporairement certains joueurs. Richard, vous le constatez, vous, sur les terrains, même chez les U10, on parle de gamins d'à peine 10 ans, il y a déjà de la tension beaucoup sur le terrain ?
Oui, tout à fait. Moi, ça fait maintenant 6 ans que je suis éducateur fédéral. Et plus on monte en catégorie, plus on monte en âge et plus il y a de tension sur le terrain. Et le problème, c'est que les parents qui sont sur le bord du terrain croient à la génération et au projet Mbappé, malheureusement. Ils croient qu'ils ont tous des pépites. Et ce qu'ils savent pas, c'est que les règles sont différentes dans le foot à 10, le foot pour les U10 et le foot à 11. Ils ne sont pas au courant de tout. Et certains éducateurs ne sont pas non plus formés. Et ce qui crée des tensions envers tout le monde, les arbitrages.
Mais quand je vous entends, Richard, quand je vous entends et quand il y avait le témoignage de Karim tout à l'heure, est-ce qu'il ne faut pas juste interdire les parents au bord du terrain ?
Mais le problème, c'est que les parents sont derrière le grillage, on ne peut pas construire des murs au bord du terrain.
J'entends, mais parce que quand je vous entends, Richard, le problème, là, on nous dit qu'il faut protéger les arbitres, etc. J'ai l'impression que le problème, ce n'est pas les joueurs. Ce n'est pas sur le terrain, en fait. J'arrête pas de dire la violence sur le terrain. Mais non, c'est au bord, c'est autour, le problème.
Le problème, les enfants de 10 ans, ils ne font pas encore de problème. Même ce week-end, on avait notre tournoi au club de Fabregues. Les gamins de 12-13 ans, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est au bord du terrain. C'est les parents qui crient, qui insultent. Et il y a mon fils, et l'arbitre, et machin, et c'est mis.
Richard, tout à l'heure, Karim nous parlait des jeunes arbitres qu'on lance sur le terrain pour des tournois de 8 ans, de 10 ans. On met des arbitres qui ont 14-15 ans. Vous le voyez, ça aussi, Richard ?
Alors, sur les tournois qu'on fait, les arbitres enfants, il y en a très peu, ou alors à la limite, ils font la touche. Mais au central, c'est quand même bien souvent des adultes. Okay. Exemple, moi, ce week-end, j'ai fait arbitre pour le tournoi de mon club.
Ah ouais, mais c'est pas simple. d'arbitrer. Même des enfants de 10 ans, on peut avoir les parents autour qui nous crient dessus, quoi.
Bien sûr, ben derrière les tribunes, enfin derrière les grillages, ils sont là toujours à crier, mais bon, ils vont faire abstraction de tout ça.
Ouais, mais c'est ça devrait pas exister, tout simplement. Non, mais Richard, est-ce que tu as encore
il y a zéro gain. Hein, enfin, je veux dire, si une coupe, il y a tout le monde qui a une coupe, tout le monde qui a une médaille.
Oui, et puis on parle d'enfants.
Voilà, on parle d'enfants de 10 ans. Quoi.
On parle d'enfants, et pourtant, il faudrait, nous dit la Fédé, mettre des caméras sur les arbitres pour calmer un peu tout le monde, filmer ce qui se passe sur le terrain, autour des terrains, pour que la tension redescende. Merci Richard d'être venu en témoigner ce matin de bonne heure au 32-16. C'est très intéressant que vous soyez éducateur, parent aussi, autour des terrains. Racontez-nous ce qui se passe sur les terrains aussi, parce que oui, ça se vite même dans les catégories pour les enfants, mais il y a aussi chez les jeunes, chez les ados, chez les U15, les U17, cette réalité des violences sur les terrains amateurs et comment y répondre, surtout quelles sont les bonnes mesures à prendre. On continue à en débattre avec vos témoignages ce matin au 32-16. Il est 5h24.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Dans un instant sur RMC, le journal de 5h30 qui approche. On reviendra évidemment sur les mesures proposées par la Fédération Française de Foot pour lutter contre les violences sur les terrains amateurs. On vous donne tout le détail dès le début du journal de 5h30. On va aussi dans un instant sourire. On va écouter le meilleur d'Arnaud Demange sur RMC. Et puis tout de suite, c'est la solution conso, Géraldine.
On déménage tout de suite et sans se ruiner.
RMC, 5h-6h30.
Charles Matin.
Tiercé, quarté, quinté, plat, obstacle, trop, handicap, engagement, corde, œillère, déféré, autostar. Trop de termes compliqués pour vos paris hippiques ? Je peux vous simplifier la vie, je suis le diplomate. Appelez-moi au 08 99 100 303 et retrouvez tous mes tuyaux. Écoutez mes bruits d'écurie et mes infos confidentielles pour des paris clés en main. Faites confiance au diplomate et misez sur les gagnants. 0899 100 303. 2,99€ par appel plus prix d'un appel. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC au 32-16. 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16. 75 centimes par envoi plus prix du SMS.
RMC, 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Il est 5h26. Bon réveil à tous sur RMC.
RMC, la solution conso.
Avec Géraldine ce matin, toutes les astuces pouvoir d'achat. Aujourd'hui, tu nous aides à ne pas payer trop cher un déménagement.
Eh bien oui, ça y est, c'est la saison. Alors, si vous avez le permis B, sachez que vous pouvez conduire un véhicule jusqu'à 30 mètres cubes. Donc, ça correspond à peu près à une maison ou un appartement de 80 mètres carrés. Donc ça, vous pouvez le faire tout seul. Le bon plan pour la location, ça va être faire votre déménagement de nuit. Parce que si vous louez un utilitaire, entre 18h et 8h du matin, vous allez...
Ouais, déjà, pour convaincre les copains de nous aider au déménagement de jour, c'est compliqué. Mais alors, lui dire, viens à minuit pour déménager...
Ça se fait. Moi, une fois, j'avais appelé la police parce que j'avais vu comme ça quelqu'un déménager. J'ai cru que c'était quelqu'un qui volait l'appartement.
Aussi, ouais.
Donc, pensez à prévenir vos voisins si vous faites ça, en tout cas, de nuit. Si vous n'avez pas de date précise, vous allez faire de grosses économies en pratiquant le groupage. Ça consiste à attendre que quelqu'un fasse à peu près le même trajet que vous pour partager le camion et donc les frais. Ou encore mieux, vous trouvez quelqu'un qui fait le trajet inverse de vous. Comme ça, le camion ne rentre pas à vide et ça peut vous faire jusqu'à 75% d'économies.
Et il y a aussi des aides pour déménager.
Oui, il y a les aides d'Action Logement, du Fonds de Solidarité Logement ou encore de la CAF, si vous avez au moins 3 enfants. Et sous certaines conditions, vous avez droit à la prime déménagement de la CAF jusqu'à 1 000 euros. C'est pas négligeable. D'autant que ça vous coûtera forcément cher si vous passez par une entreprise. Attention, si le prix est trop bas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, si vous passez par une entreprise, sachez qu'il faudra payer le prix fort.
Mais alors, à quoi je dois faire particulièrement attention quand je fais un devis, quand je choisis l'entreprise de déménagement?
Il faut vérifier avec son numéro de CIREC que son activité, c'est bien le déménagement et pas autre chose. Et puis, quand est-ce qu'elle a été créée? Il y a certaines entreprises qui sont créées juste pour la saison des déménagements qui ferment juste après l'été. Donc ça, c'est à éviter.
Les bons plans, les conseils, les astuces de Géraldine pour déménager pas trop cher. Donc, j'ai bien compris ton prochain déménagement. Je te rejoins à 1h du matin.
Exactement.
C'est ça,
ça marche avec nos horaires, ça.
C'est vrai, ça peut marcher. La solution conso avec Géraldine à réécouter quand vous voulez en podcast sur l'appli RMC. 5h28. Allez, tout de suite, on se fait plaisir. Comme chaque matin, on va sourire en réécoutant le meilleur d'Arnaud Demange sur RMC.
Cette semaine, la 13e saison de Secret Story, ça a débuté sur TF1. Et Charles me disait justement, Secret Story, c'est un peu comme l'OM, ça fait 13 saisons que c'est nul. Ça va, Charles, ça va.
J'aurais pu le dire.
On sait que Paris a gagné, on sait. Non, mais en général, les secrets sont pas ouf. Alors cette année, j'ai 11 prénoms. Qui peut deviner ça?
Ça, c'est un secret.
Je connais même pas les prénoms de ma propre femme, moi. Je connais un, évidemment, heureusement, je sais qu'elle s'appelle... Camille.
Voilà.
Il y a aussi J'ai découvert l'existence de ma sœur à l'âge de 16 ans. C'est pas dingue non plus. Moi, j'aurais préféré. J'ai découvert l'existence de ma sœur à l'âge de 16 ans, car j'ai découvert que c'est aussi ma tante. Et à la base, moi, je pensais que c'était juste ma femme. Les producteurs pourraient faire un effort, quoi, en invitant des candidats un peu plus surprenants. Par exemple, un type dont le secret, ce serait « J'ai fait de la chirurgie esthétique après avoir coulé ma famille dans du béton sous une terrasse à Nantes. » Et bah là, on se
dit « Waouh, je regarde !»
Je regarde.
Et on retrouve Arnaud tout à l'heure, évidemment, en direct dans Apolline Matin à 5h29. Dans un instant, la météo, le journal en direct sur RMC. Et puis ensuite, la bande va nous rejoindre à 5h40 au complet. Il y aura Antoine Salva pour la Story Sport. On va parler du sacre mondial de Johan Benjamin Gaba, la nouvelle star du judo français. Ce sera au menu de la Story Sport. Et puis, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Anthony Morel va nous parler de l'avion du futur, un avion totalement autonome. Est-ce que vous êtes prêt à monter dans un avion sans pilote? On en débat avec Anthony Morel tout à l'heure dans la bande à 5h40. Mais tout de suite, Géraldine, on va regarder le ciel du jour. C'est parti pour une magnifique semaine.
Oui, ça va être une semaine totalement estivale, très ensoleillée et de plus en plus chaude. Déjà pour aujourd'hui, donc, on peut avoir quelques nuages qui traînent encore ce matin, notamment vers les côtes de la Manche ou les frontières de l'Est. Globalement, en journée, c'est le soleil qui va l'emporter avec pas mal de vent près de la Méditerranée. Et puis déjà des températures en hausse. On aura 25 degrés à Lille cet après-midi, 26 à Paris, Lyon, 27 à Bordeaux, 30 à Marseille, jusqu'à 32 pour Montpellier et Bastia.
La météo sur RMC avec Homer. Vos vacances en camping 4 et 5 étoiles. Réservez votre séjour sur Homer, HOMIR.com.
RMC, il est 5h30.
RMC, Charles Matin.
Bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC pour toute l'info, toute l'actu en direct le matin. Et à 5h30, c'est votre journal présenté par Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Comment mieux protéger les arbitres en les équipant de caméras dès la saison prochaine? C'est l'une des réponses de la Fédération française pour mettre fin à la violence dans le football amateur. Elle a présenté son plan ce week-end. Quatrième nuit de frappes israéliennes sur l'Iran qui poursuit également sa riposte. De fortes explosions ont retenti à Jérusalem et le bilan s'allonge des deux côtés. Et puis ce procès hors norme qui s'ouvre aujourd'hui à Lyon, celui du piratage informatique massif du géant de l'intérim Adecco.
Nouvelle illustration de la violence dans le foot amateur ce matin.
Avec cette bagarre générale qui a éclaté samedi près de Toulouse sur le terrain d'un tournoi d'enfants de 10 ans. On l'a appris hier soir, un éducateur a été agressé et un père de famille gravement blessé. Et c'est précisément contre ce genre d'événement que le président de la Fédération française de football veut lutter. Pour ce faire, Philippe Diallo a présenté ce week-end une batterie de mesures depuis Clairefontaine. Mesures très attendues des bénévoles, vous l'avez constaté lors d'un tournoi à Villebon-sur-Yvette en Essonne, Caroline Renaud.
Sur la pelouse, les esprits s'échauffent facilement et Rachid en fait parfois les frais.
On ne se sent jamais protégé dans un match de football.
Il est arbitre depuis 32 ans. La dernière fois qu'il s'est senti agressé, c'était il y a quelques semaines.
C'était à la fin du match, contester le but marqué. Ils ont essayé de m'agresser verbalement et physiquement. Des mots grossiers. Et blessant.
Alors la fédération annonce plusieurs mesures pour protéger les arbitres, des caméras sur leur poitrine et des temps morts pour permettre de faire retomber les tensions. Une bonne nouvelle pour Labib, entraîneur du club.
Enfin, on fait quelque chose. La caméra, ce serait l'idéal. S'il y a des violences, il y aura des preuves. Ça calmerait pas mal de personnes.
Il y aura aussi des caméras au bord des terrains lors des matchs jugés sensibles.
On devrait généraliser ça à tous les matchs. Il n'y a pas de match facile. Une décision injuste, ça peut envenimer les choses.
Bon. Parfois au point de lasser les bénévoles. Il va arrêter d'entraîner il y a 2 ans.
La violence du football m'a complètement découragé. Ça m'écœure de voir ça, en fait. Ça doit être qu'un moment de détente et de plaisir, et ce n'est pas le cas aujourd'hui.
La fédération prévoit aussi de durcir les sanctions et d'écrire une charte pour les parents accompagnateurs.
Et on vous attend ce matin au 32-16. Hein, ces mesures, vous l'avez entendu, notamment les caméras, les temps morts, les expulsions temporaires, les mesures présentées par la Fédé pour lutter contre la violence. On va en parler avec Christophe Benoît, qui sera mon invité tout à l'heure à 6h10. C'est le président du district Grand Vaucluse, un district dans lequel on a déjà testé, on expérimente ces mesures depuis plusieurs mois. Il nous dira si c'est efficace, mais je vous attends aussi évidemment au 32-16. Vous êtes parents, éducateurs, entraîneurs, arbitres sur les terrains amateurs. Vous témoignez au 32-16.
Il est 5h33 sur RMC. La situation est toujours très tendue entre Israël et l'Iran. La première poursuit son offensive et la seconde riposte. Encore cette nuit, elle a visé la ville de Jérusalem avec une nouvelle salve de missiles. L'État hébreu appelle sa population à se réfugier dans un endroit protégé et à y rester jusqu'à nouvel ordre. Mais cette opération était nécessaire, expliquait hier soir le Premier ministre israélien à la chaîne de télévision américaine Fox News. Pour Benjamin Netanyahou, Israël se devait d'agir pour empêcher l'Iran de se munir de l'arme nucléaire.
Nous ne pouvons pas laisser le régime le plus dangereux du monde posséder les armes les plus dangereuses au monde. Nous nous protégeons, mais ce faisant, nous protégeons beaucoup d'autres. Les renseignements que nous avons obtenus et partagés avec les États-Unis étaient absolument clairs. Ils travaillaient sur un plan secret visant à militariser l'uranium. Ils avançaient très vite. Très rapidement, ils seraient parvenus à réaliser un essai, voire une première arme nucléaire, en quelques mois et certainement en moins d'un an.
Alors, pour l'heure, le bilan s'élève à 13 morts côté israélien, 224 côté iranien avec des milliers de blessés. Bilan beaucoup plus lourd du côté de Téhéran qui a également perdu plusieurs de ses cadres et hauts gradés depuis vendredi, notamment les deux chefs du renseignement des gardiens de la révolution. De quoi affaiblir le régime, Ameline Lafchin.
Sites nucléaires, avions ravitailleurs, stocks de missiles. Depuis vendredi, les pertes iraniennes se multiplient. Père de Jong, ancien colonel des troupes de marine.
Il y a eu des destructions vraiment extrêmement importantes, puisqu'on parle de plusieurs centaines de cibles à chaque fois, donc c'est énorme.
Des infrastructures détruites et un système de commandement qui vacille après l'élimination par Israël de plusieurs hauts dirigeants iraniens.
On vise la tête du système et donc à partir de là, il y a une désorganisation extrêmement lourde qui est mise en place et dans tous les cas qui n'est pas récupérable dans le court terme. On met plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines avant de retrouver l'intégralité, en tout cas l'intégrité du système de commandement.
Mais pour autant, les moyens de riposte de Téhéran sont encore loin d'être anéantis, selon le lieutenant-colonel Vincent Arbaretier.
Pour Israël, c'est une guerre compliquée au plan logistique, alors que pour l'Iran, si vous voulez, c'est beaucoup plus simple, parce qu'eux, ils ont dispersé leur site de lancement et ils gardent le pire ou le meilleur pour la fin.
C'est-à-dire des missiles hypersoniques si rapides que même le dôme de fer ne peut pas les intercepter.
Et c'est dans ce contexte que Donald Trump est arrivé cette nuit au Canada pour un sommet du G7 sous haute tension. Premier sommet du G7 depuis sa réélection. Le président américain doit notamment rencontrer les présidents ukrainiens et mexicains.
5h35 sur RMC, ouverture aujourd'hui à Lyon d'un procès hors norme.
Celui d'une gigantesque escroquerie dont a été victime la société d'intérim Adecco en 2020. Les données personnelles de plusieurs dizaines de milliers d'intérimaires sont piratées. 14 prévenus doivent comparaître jusqu'à la fin du mois. Mais ce qui est surtout marquant, Guillaume Bier, chef du service police-justice d'RMC, c'est le nombre de victimes. Au total, 2400 personnes ont décidé de se porter partie civile.
Oui, et tout cela à cause d'un stagiaire indélicat. À l'époque, Théo avait 19 ans, il vivait encore chez ses parents et en discutant en ligne avec un pirate informatique qu'il ne connaît pas, il s'est laissé convaincre de fournir ses codes d'accès professionnels. Une porte d'entrée pour le hacker vers l'immense base de données d'Adecco. Résultat, les informations personnelles, bancaires, papiers d'identité d'au moins 70 000 intérimaires français sont piratées. Des escrocs en profitent alors pour faire des prélèvements frauduleux sur leurs comptes. 49,85 €, juste en dessous du seuil de 50 € qui entraîne une vérification. Après 2 ans d'enquête, 14 suspects ont été identifiés. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison pour ces escroqueries hors normes et pour lesquelles 2400 plaignants se sont portés partie civile.
En football, le PSG garde l'élan de la Ligue des Champions et écrase l'Atlético Madrid 4-0 pour son entrée en lice dans le Mondial des clubs. Je vous rappelle que tous les temps forts de cette compétition sont à vivre sur RMC, la radio officielle. Et pour ne rater aucun match, vous retrouverez notre radio digitale sur l'application RMC.
Et puis on termine avec le quintet, Élise, ce sera à 18h sur l'hippodrome de Compiègne.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 5, Vernix. L'outsider, c'est le 10, Exciting.
Ah, et je sens que ça réjouit.
Il faut être excité en disant Exciting. Donc,
évidemment.
Voilà.
Pour le quintet.
Très beau nom de cheval.
Rendez-vous à 18h à Compiègne. Mmh. Donc c'était le journal d'Élise Dangean à 5h37 sur RMC. J'espère que vous l'avez bien écouté. Ce journal, parce que c'est la tradition, chaque matin sur RMC, on a des cadeaux pour vous les leftos, vous qui démarrez la journée avec RMC, il suffit d'être attentif, de bien écouter l'info, d'être bien réveillé et de répondre à notre question d'actu.
Sur quel score s'est imposé hier soir le PSG face à l'Atlético de Madrid pour son premier match de la Coupe du Monde des clubs?
Ah bah, Élise vient de vous donner la réponse, là. Si vous avez bien noté le score, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez tout de suite le mot actu par SMS au 73216, actu au 73216 pour remporter...
Le Winbot Mini d'Ecovax, le petit robot intelligent qui lave les vitres tout seul.
Incroyable. Plus besoin de laver les vitres. Voilà, le robot qui nous fait rêver. Le Winbot Mini d'Ecovax. Il est pour vous, là, le robot. Si vous envoyez tout de suite le mot actu par SMS au 73216, on vous tire au sort et le gagnant ou la gagnante sera en direct avec nous tout à l'heure à 6h20. Bonne chance à tous. Mais tout de suite, à 5h38, et comme chaque matin, on va vous emmener dans les coulisses de l'actualité. Ce sont les indiscrets RMC. On retrouve tout de suite Bérangère Bocquillon, la chef du service société. Bonjour Bérangère.
Bonjour Charles, bonjour Géraldine.
Bonjour.
Alors ce lundi, vous allez voir un peu partout dans les entreprises des adolescents débarquer. Bah oui, c'est le premier jour de stage obligatoire pour les lycéens en classe de seconde. 15 jours d'immersion dans les entreprises, dans les administrations. Et c'est une info RMC, malgré les difficultés l'an dernier, environ 9 élèves sur 10 ont finalement trouvé un stage cette année pour le lancement du dispositif.
Oui, selon les départements, entre 85 et 98% des élèves de seconde ont trouvé un stage l'an dernier. Et plus de 8 sur 10 en étaient satisfaits, selon l'Éducation nationale. Et si l'association de parents d'élèves FCPE regrette que les entreprises gèrent le mois de juin à la place des lycées, beaucoup de proviseurs y voient une opportunité pour leurs élèves. Par exemple, au lycée Bristol de Cannes, dans un quartier populaire, 85% des élèves ont trouvé un stage cette année. Ils sont même 90% à avoir trouvé dans un lycée de Mulhouse. Mais au lycée de Belleville en Beaujolais, en territoire rural, c'est plus compliqué. Un élève sur quatre n'a pas trouvé. Et ces 137 élèves sans stage resteront chez eux à suivre une formation à distance. Mais on peut parler de réussite, me confie un chef d'établissement d'Alsace. Car l'armée, les hôpitaux, les mairies, les grandes entreprises, mais aussi les artisans proposent des stages. Et si la plupart des élèves trouvent grâce à leurs parents, la plateforme de l'Éducation nationale Un élève, un stage compte des milliers de propositions. J'en ai testé quelques-unes, comme la pharmacie de Dombasle en Argonne, dans la Meuse. Elle accueille deux élèves de seconde, une opportunité, dit-elle, car elle espère bien faire naître des vocations de pharmacien en zone rurale.
Merci beaucoup pour ces infos en coulisses. Les indiscrets, signé Bérangère Bocquillon, chef du service société d'RMC. Et on salue tous les élèves de seconde qui vont découvrir à partir d'aujourd'hui. Oui, on va aller voir, c'est la tradition, je peux vous raconter, RMC, dans notre bâtiment, aujourd'hui, il y aura la queue au bureau d'admission, là où on fait les badges et tout pour l'entreprise. Mais oui, on va les croiser dans les couloirs, ce sera le cas aussi dans votre entreprise, j'en suis sûr, pendant les 15 prochains jours. Il est 5h40 et ça y est, la bande est là. Oh, le stage de seconde, ça leur paraît bien loin maintenant. Oui,
C'était en troisième à notre époque.
Moi,
je n'avais même pas ça. Moi.
Alors, vous l'avez entendu, la voix d'Anthony Morel qui vient de s'installer pour C'est déjà demain dans un instant. Salut Anthony.
Salut tout le monde.
Au menu ce matin.
Écoute, je vais vous parler des avions du futur. Est-ce que vous seriez prêt à monter dans un avion sans pilote dans le cockpit?
Allez, on va avoir ce débat tous ensemble dans un instant. On va aussi parler sport avec Antoine Salva. Salut Antoine.
Salut Charles. Je vais vous parler d'un des personnages que le grand public a découvert lors des Jeux Olympiques l'été dernier, le judoka Joan Benjamin Gaba, tout nouveau champion du monde.
Et puis Géraldine, il y aura ton bonus aussi.
J'ai plein d'infos sur le prochain Toy Story.
Ah, et puis dans un instant, vous rejoignez la bande. Évidemment, vous connaissez le chemin pour venir témoigner, réagir autour de toute l'actualité. C'est le 32-16 et vous êtes en direct tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Attention, même si l'UBB et le PSG sont champions d'Europe
et que c'est trop cool,
la saison n'est pas finie sur RMC.
Championnat de France de natation, championnat du monde de judo, Euro Espoir et Coupe du monde des clubs de foot, Euro féminin et finale du championnat de France de basket, phase finale du top 14 de rugby, mais aussi les grands prix de Formule 1 et de MotoGP.
Sur RMC, même l'été,
le sport ne s'arrête jamais.
Travail, terrain, chantier, Toyota ProAce répond à tous les besoins des artisans et professionnels avec sa gamme d'utilitaires 100% électrique. Toyota ProAce City, ProAce et ProAce Max, trois fourgons de 4 à 17 mètres cubes pour un seul objectif, vous simplifier le quotidien. Silencieux, modulables et malins pour votre budget, ils sont faits pour vous. Il y a forcément un utilitaire Toyota qui vous correspond. Toyota ProAce, transporteur officiel de la tournée des meilleurs artisans de France RMC 2025.
RMC Football. L'OGC Nice lance sa campagne d'abonnement pour la saison 2025-2026. Supportez les Aiglons à l'Allianz Riviera en Coupe d'Europe et en Ligue 1. Découvrez dès maintenant toutes nos offres sur billetterie.ogcnice.com. Faites le plein d'émotions pour cette nouvelle saison de l'OGC Nice avec RMC.
Tiercé, quarté, quinté, plat, obstacle, trop, handicap, engagement, corde, œillère, déféré, autostart.
Trop de termes compliqués pour vos paris hippiques? Je peux vous simplifier la vie, je suis le diplomate. Appelez-moi au 08 99 100 303 et retrouvez tous mes tuyaux. Écoutez mes bruits d'écurie et mes infos confidentielles pour des paris clés en main. Faites confiance au diplomate et misez sur les gagnants. 0899 100 303. 2,99€ par appel plus prix d'un appel. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
RMC, Charles Matin.
Charles Magnin.
5h43 et toute la bande est là de l'info sport dans un instant. Oui, Gaba, c'est le nouveau nom à retenir, la nouvelle star du judo français. C'est au menu de la story dans un instant. En parlant de story, c'est Toy Story même qui est au menu du bonus de Géraldine aussi. Mais tout de suite, ce débat avec Anthony Morel. Est-ce que vous êtes prêt à monter dans un avion sans pilote? Tu nous l'as promis pour C'est déjà demain, l'avion du futur, parce que c'est aujourd'hui que débute le rendez-vous incontournable du monde de l'aviation. Anthony, le Salon international de l'aéronautique, c'est au Bourget toute la semaine, près de Paris. Et tu nous proposes donc de décoller dans un avion très particulier.
Ouais, c'est ça, faut s'imaginer, hein, 10 000 mètres d'altitude, les turbulences commencent, rattachez vos ceintures, et là, il n'y a personne dans le cockpit. Alors, c'est pas complètement fou, c'est peut-être ce qui va arriver dans quelques années. Tous les industriels aujourd'hui, Airbus, Boeing, Thales, réfléchissent sérieusement à la question de vols commerciaux autonomes. Et finalement, c'est pas complètement idiot, c'est-à-dire que technologiquement, ça a du sens, ça fonctionne déjà dans l'aviation militaire, on a des drones depuis des années, ça fonctionne très très bien. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose dans le civil? Il y a déjà eu...
D'ailleurs, c'est ça, en fait, c'est plus un avion, c'est un drone.
C'est un drone avec des passagers à l'intérieur, finalement. Ce serait ça, l'avion du futur. Et alors, il y a déjà eu des vols d'essai qui ont été réalisés, plusieurs centaines, qui vont être complètement autonomes, c'est-à-dire de la phase de roulage jusqu'au retour au hangar. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, un avion, c'est déjà assez largement automatisé.
C'est le pilote automatique.
Mais là, c'est le pilote automatique qui va aussi gérer à la fois le décollage, l'atterrissage, donc des choses qui sont extrêmement complexes, avec à l'intérieur de l'avion, des caméras, des lidars, des systèmes d'intelligence artificielle embarqués qui vont permettre de tout faire de manière complètement optimale, qui vont être capables aussi d'optimiser en fonction des conditions météo qui vont être analysées, j'allais dire quasiment en temps réel, eh bien, les trajectoires pour pouvoir optimiser la consommation de carburant. Alors tout ça se fait sans pilote, mais il y aurait quand même un pilote. Le pilote, il serait au sol dans un centre de commandement, donc tu aurais un commandant de bord.
Ah mais c'est comment ça s'appelle? Flight Simulator, là, c'est ça, ouais, le c'est jeu ça. Vidéo là.
C'est exactement ça. Bah, en fait, ce serait un Flight Simulator, mais pour de vrai. Et donc, il verrait par les yeux de l'avion, si tu veux, et il pourrait, en cas de problème, reprendre la main. Bon, je ne sais pas s'il y a de quoi rassurer les gens, mais en tout cas, il y aurait quand même un humain qui superviserait un petit peu tout ça. Donc, c'est ça le principe sur lequel sont en train de travailler aujourd'hui tous les grands industriels.
Tu nous dis, voilà, technologiquement, ça va rapidement fonctionner, on saura le faire. Mais qui est prêt à monter dans cet avion? C'est ça la question.
C'est la question que je vous pose. Vous seriez prêt, vous, ou pas?
Franchement, oui.
Ouais, c'est vrai.
J'ai réfléchi, là, quand tu nous as parlé de ta chronique, et je me suis dit, bah, aujourd'hui, on monte tous dans un métro automatique. Il y a des tramways automatiques. Non, mais la voiture.
Il n'y a pas de rails sur les avions, tu sais.
Non, mais.
Je te le
rappelle
quand même. C'est le même principe.
C'est le même principe.
Il y a des voitures automatiques.
Il y a des voitures qui sont effectivement de plus en plus autonomes. Après, l'avion,
moi,
c'est quand même
assez. J'ai plus confiance dans la voiture autonome que dans la voiture avec le pilote.
C'est vrai que Géraldine, toi, t'es toujours très partante sur tous les sujets tech, je sais, mais l'avion, c'est peut-être.
Non, mais souvent, dans les accidents, dans les drames aériens, c'est une erreur humaine.
Alors, vous avez complètement raison. En fait, c'est ça. Mais le truc, c'est que c'est contre-intuitif, si tu veux. C'est que la barrière psychologique, elle reste énorme, mais évidemment, tu as raison, les avions sans pilote, ils seraient probablement plus sûrs que ceux d'aujourd'hui. La grande majorité des problèmes, des crashs qu'on a, viennent d'erreurs de pilotage. Là, tu aurais des avions où il n'y aurait pas de problème de fatigue, de stress, de distraction. On supprime tout risque de défaillance du pilote en l'air. Tous les scénarios à la Germanwings, tu te souviens, où le pilote avait foncé volontairement dans une montagne, bah, ça aussi, tu l'évites. Les risques d'attaque terroriste en plein vol, tu ne peux pas menacer l'intelligence artificielle. Donc voilà.
Alors, du coup, qui va me dire bienvenue à bord, tout ça
alors,
c'est une IA qui va dire bonjour, bienvenue dans un avion sans pilote.
Ce sera peut-être les hôtesses de l'air ou les stewards qui prendront le relais. Et alors, le dernier petit point, c'est que ça pourrait aussi faire baisser le prix des billets d'avion, parce qu'évidemment, s'il n'y a plus de pilote, ça coûte moins cher.
Oui, mais tu m'as dit qu'il y avait encore un pilote au sol.
Au sol, mais il pourra superviser peut-être une dizaine d'avions en même temps.
Oh là, c'est, ça, le truc. Ouais, bah, c'est plein de questions, des barrières psychologiques peut-être à franchir avant de monter dans l'avion sans pilote. À 5h47, on va tout de suite aller au 32-16, puisque Lucas nous appelle de Nantes. En Loire-Atlantique. Bonjour Lucas.
Salut Charles, comment va tout?
Salut,
Lucas.
Très belle ville.
Éducateur, oui, Nantais, ça fait plaisir à Anthony, mais surtout Lucas, éducateur de foot, c'est ça?
Et je profite pour saluer Anthony et je l'attends toujours pour un petit café sur Nantes.
Ah oui, rendez-vous est pris pour un café. En attendant, Lucas, vous qui êtes éducateur de foot, ça vous a fait réagir ce matin, on parle de la violence autour des terrains de foot amateurs et des mesures prônées par la FFF qui promet des caméras sur les arbitres autour des terrains, qui promet aussi des temps morts pour calmer les joueurs quand la tension monte. Vous le constatez, vous êtes éducateur avec des enfants de quel âge, Lucas?
Moi, j'ai eu 15. C'est arrivé, ça fait pas longtemps aussi, à côté de Nantes, à Cholet, qu'il y a un éducateur qui était carrément agressé par un parent parce que son fils ne jouait pas trop. tout ça. Non, il y a toujours des histoires.
Oui, parce qu'on parle beaucoup de protéger l'arbitre, mais on a même des parents qui s'en prennent à l'entraîneur, c'est ça? Parce que les parents sont persuadés d'avoir le futur Mbappé à la maison.
Exactement. En fait, ils vont cibler, ils vont projeter leurs désirs sur leur enfant. C'est complètement...
J'entends vos témoignages depuis ce matin, Lucas, là, vous qui êtes éducateur, entraîneur, etc., j'ai l'impression qu'il faut plus éduquer les parents que les enfants.
Exactement. En fait, pour moi, il faut faire une formation aussi pour les parents. Hein. Et tu peux mettre aussi des sanctions. Si tu vas sanctionner, tu leur dis, écoute, si vous faites des choses que ça ne va pas, c'est votre enfant qui va payer suspension pour quelques temps, tout ça. À mon avis, déjà que ça, il va leur calmer.
C'est très intéressant ça, Lucas, ce que vous dites. C'est oui, on a prévu là, des sanctions pour les joueurs, pour les entraîneurs, peut-être des sanctions pour les parents, oui, leur interdire de venir ou voilà, les menacer.
C'est difficile à mettre en place. Hein.
Bah, de dire si tel parent a insulté l'arbitre pendant tout le match au bord du terrain, bah, son enfant ne peut plus jouer pendant. Alors ça sanctionnerait l'enfant, ah, oui, c'est vrai que ce serait un peu injuste, mais de lui dire attention, votre enfant ne pourra plus jouer si vous hurlez sur l'arbitre chaque week-end, ça peut être intéressant. Merci Lucas pour votre témoignage, mais ça vient illustrer encore, vous nous le dites, du côté de Cholet, on a eu cet exemple à Toulouse, il n'y a pas un week-end sans qu'on apprenne qu'il y a eu des violences, des tensions sur des terrains de foot amateurs, parce que vous le dites, des parents qui projettent leur frustration sur leurs enfants et qui du coup s'en prennent à l'entraîneur, à l'arbitre, alors que les enfants viennent pour jouer, pour s'amuser, pour prendre du plaisir en jouant au foot, et ce sont... bien souvent les parents, plus que les enfants, qui posent problème au bord des terrains. On continue à en débattre ce matin avec vos témoignages au 32-16. On va parler sport à 5h50, mais de manière plus réjouissante. On va parler judo. Parce que ce matin, Antoine, dans ta story, tu nous parles d'un judoka que le public français a commencé à découvrir l'été dernier, hein, pendant les JO. Vice-champion olympique 2024, Johan Benjamin Gaba est désormais sur le toit du monde.
Et oui, Charles, révélé aux yeux du grand public par une médaille d'argent, puis par un combat devenu mythique en finale du tournoi par équipe, lors duquel l'équipe de France est imposée, avec Teddy Runner. Il avait emporté un combat face à un cador japonais. Il avait donc eu droit à sa chanson au Club France. Benjamin Gaba et son kata de bâtard sur les paroles de Benjamin Pavard et sa frappe de bâtard. Et oui, hier à Budapest, en Hongrie, Johan Benjamin Gaba réalise la journée parfaite avec 5 ippons en 5 combats pour se hisser en finale.
J'ai perdu une fois en finale des Jeux, c'est pas tous les jours qu'on est dans une finale mondiale, je peux pas en reperdre une deuxième.
Bien décidé à monter cette fois-ci sur la plus haute marche du podium, le natif du Chesnay en région parisienne joue le titre face au Brésilien Daniel Carnien avec Morgan Mori au commentaire sur RMC.
Benjamin Gaba, attention, fort contreur aussi, Carnien, il a battu le japonais comme ça aujourd'hui. Mouvement d'épaule, champion du monde. Le même mouvement que pour Batrabé, cet homme c'est du titane.
Johan Benjamin Gaba en titane s'impose au Golden Score et rentre dans l'histoire pour offrir à la France son premier titre mondial dans la catégorie des moins de 73 kilos.
Cette Marseillaise pour Johan Benjamin Gaba et donc ce dimanche 15 juin qui restera son jour de gloire.
Et oui Charles, le rêve du judoka de 24 ans est devenu une réalité.
Ce dossard, j'ai tellement regardé. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un dossard rouge, je me dis, ah, moi aussi, je le veux. Et enfin, je l'ai, ça fait tellement plaisir.
Le dossard rouge, et oui, Gaba est plein d'ambition. Le dossard rouge, c'est celui du champion du monde en titre. Il l'est désormais. C'est un statut qu'il faudra assumer. Et pour son entraîneur, Ludovic Delacote, c'est un résultat logique qui met en valeur tout le potentiel du jeune homme.
C'est un combattant qui lâche rien, l'abnégation, l'intransigeance. Et du coup, il a juste exprimé tout ce qu'il sait faire. C'est l'association de toutes les pièces du puzzle. Et aujourd'hui, le puzzle, il est complet.
La belle histoire de Johan Benjamin Gaba. Je vous invite à redécouvrir d'ailleurs le 11e champion du monde français dans un film produit par RMC Sport, Gaba, le nouveau monde, disponible sur YouTube.
Je l'ai regardé hier soir. Justement.
Après,
juste après, dans la foulée, et le gars est génial. Voilà, c'est un super judoka, un super sportif, mais aussi un mec génial. Donc voilà, je vous le recommande. Revivez le combat, évidemment, c'est important, mais ce titre de champion du monde, mais aussi allez découvrir Johan Benjamin Gaba sur la chaîne YouTube d'RMC Sport avec ce film Gaba, le nouveau monde. C'est génial aussi à découvrir. Et d'ailleurs, avec ce titre de Johan Benjamin Gaba, eh bien, ça porte à 3 médailles le bilan tricolore sur ces mondiaux de judo. La suite de la compétition à suivre à partir d'aujourd'hui. Sur RMC Sport, à la télé, pour ne rien manquer de la moisson tricolore de médailles. On brille toujours au judo, c'est génial d'être une des meilleures nations de judo. Et comme quoi, on a beaucoup dit avant ces championnats du monde, on n'a pas Clarissa Agbenienou, il n'y a pas Teddy Riner, et ben ça, voilà.
Le vivier est très très important et ça permet aussi de mettre le focus sur les plus jeunes et ceux qui sont eh bien dans le début de leur carrière, prêts à tout démontrer sur les tatamis.
Exactement, comme Johan Benjamin Gaba, donc un nom à retenir pour l'avenir. Le bonus à 5h53 avec toi Géraldine, et on en sait plus sur la suite de la saga Toy Story. Ton ami,
c'est moi. Et oui, le studio Pixar qui a dévoilé les premiers éléments de ce 5e volet de Toy Story qui va sortir dans un an, ce sera en juin 2026. Alors on y retrouvera les jouets stars de la saga, Woody, Buzz, Jessie, mais surtout il y aura un nouveau grand méchant, la tablette, baptisée Lilypad. Elle capte toute l'attention de l'enfant de 8 ans au cœur de l'intrigue, et ses jouets vont devoir batailler donc pour garder leur place face à cette nouvelle technologie. C'est très actuel.
Bah oui, excellente idée. Voilà, en tant que parent, j'ai envie d'emmener mes enfants. Oui, alors on va voir la méchante tablette.
Rendez-vous donc dans un an au cinéma, et Toy Story 5, c'est loin d'être le seul projet en cours pour Pixar, et qui annonce également des suites de Coco et des Indestructibles d'ici 2 ans. Mais surtout, dès cette semaine, il y a la sortie de Helio. C'est l'histoire d'un petit orphelin qui va rencontrer des aliens. La bande-annonce est époustouflante et c'est en salle dès mercredi.
Je suis prêt. Venez me chercher.
Est-ce que ça va?
Ouais, j'essaie de me faire enlever. Par des aliens?
Mon fils, es-tu prêt à devenir la plus grande machine de guerre de tout l'univers?
Je suis pas sûr.
Oh. Helio, c'est ça, hein?
Voilà, à voir mercredi garçon, en salle.
Le nouveau Pixar en salle mercredi. C'était le bonus de Géraldine, la story sport d'Antoine Salva, l'avion sans pilote d'Anthony Morel qui nous a tous fait frissonner ce matin. Et puis ne bougez pas parce que dans un instant sur RMC, c'est le journal de 6h avec à la une les dernières infos de la nuit. Les bombardements qui se poursuivent entre Israël et l'Iran. On vous donne toutes les infos dans un instant sur RMC. À la radio, mais aussi à la télé. Ça y est, c'est parti. Vous pouvez nous retrouver sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. À tout de suite.
RMC, 5h-6h30.
Charles Matin. À l'écoute des pros avec Citroën. Choisir le bon véhicule utilitaire, c'est essentiel pour un professionnel. Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes artisan électricien et vous avez choisi le Citroën Iberlingo Van électrique. Alors pourquoi ce choix ?
C'est simple, il coche toutes les cases. Je travaille surtout en ville. Et avec une autonomie pouvant aller jusqu'à 337 km, ça couvre largement mes besoins quotidiens.
D'accord.
Et aussi, j'ai pu aménager l'intérieur avec l'offre Custom Fit, un service de personnalisation sur mesure pour pouvoir ranger mes outils exactement comme je souhaite.
Et c'était pas trop compliqué de passer à l'électrique ?
J'ai un peu hésité.
Oui.
Mais après, j'ai pu tester le véhicule avec une offre d'essai longue durée. Mm-hmm. Ça m'a permis de vérifier que ça correspondait vraiment à mes besoins.
Et comment avez-vous été accompagné par Citroën ?
J'ai été me renseigner dans un point de vente Citroën près de chez moi. Les conseillers étaient vraiment à l'écoute. Ils connaissaient parfaitement les contraintes, ils m'ont guidé sur tout, choix du véhicule, personnalisation, financement, un vrai accompagnement du début à la fin.
Merci Alexandre.
Merci.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur citroën.fr.
Chez Cellier des Dauphins, le rosé prestige, c'est avant tout le savoir-faire de vignerons producteurs engagés sur le territoire du sud de la vallée du Rhône.
Les raisins de notre rosé sont cueillis à l'aube pour préserver toute la fraîcheur des arômes. Avec ses notes florales et de petits fruits rouges, le rosé prestige AOC Côte du Rhône accompagnera parfaitement vos apéritifs et repas d'été.
Avec Cellier des Dauphins, nos vignerons vous invitent à des moments de saveur partagés. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Être artisan du bâtiment, c'est construire le monde de demain. Les artisans, ce sont des hommes et des femmes engagés et passionnés par leur métier. À la Fédération française du bâtiment, l'artisanat est au cœur de nos actions. La FFB, la maison des artisans, est chaque jour à vos côtés pour vous accompagner et vous défendre. Pour tout savoir, rendez-vous sur ffbâtiment.fr. La FFB est partenaire de la tournée des meilleurs artisans de France sur RMC.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
5h57 et vous vous réveillez sur RMC à la radio et aussi sur RMC Story à la télé. C'est parti sur le canal 23 de la TNT. Vous nous voyez, on est installé avec Géraldine Demory à mes côtés. Rebonjour Géraldine.
Bonjour à tous.
Et Géraldine qui a la chance de porter la meilleure nouvelle du jour, nous annoncer un magnifique temps pour toute la semaine.
Toute la semaine, c'est du soleil et des températures en hausse.
Et on regarde le détail de la carte météo et des températures du jour dans un instant. Dans un instant, c'est aussi votre journal de 6 heures de Thibaut Texer avec à la une le point sur la situation, les bombardements qui se sont poursuivis cette nuit entre l'Iran et Israël. Troisième nuit de tirs nourris entre les deux pays. On vous donne tout le détail, les dernières infos dans un instant sur RMC. À 6h10, on va se poser cette question. Comment lutter contre la violence dans le foot amateur? La Fédération des
dévoile plusieurs mesures, équiper les arbitres de caméras, filmer les matchs les plus sensibles. Une bonne chose selon la Bib, entraîneur amateur dans l'Essonne.
Enfin, on fait quelque chose. La caméra, ce serait l'idéal. S'il y a des violences, il y aura des preuves. On devrait généraliser ça à tous les matchs. Il n'y a pas de match facile, une décision injuste, ça peut envenimer les choses.
La Fédé qui voudrait aussi généraliser le carton blanc pour exclure temporairement les joueurs, instaurer un permis à points pour les entraîneurs. À 6h10, je reçois Christophe Benoît, c'est le président du district Grand Vaucluse de football. Il a testé toutes ces mesures, il nous dira si c'est efficace. Et évidemment, vous témoignez au 32-16, vous êtes entraîneur, arbitre, éducateur, parent aussi autour des terrains. Racontez-nous la réalité de ces tensions, de ces violences autour du foot amateur. On va aussi retrouver Manu Le Chypre pour Manu Conso. Et ce matin, on va aller prendre un petit café avec Manu, mais pas n'importe où, dans un coffee shop. Leur nombre explose, hein, ces cafés 2.0, on va le dire comme ça, très marketing aussi. On va faire le point avec Manu Le Chypre. On va aller boire un matcha, un latte, Géraldine, cliente des coffee shops ou pas?
Pas vraiment, non.
Pas vraiment. Bah, on verra si Manu Le Chypre arrive à nous convaincre tout à l'heure dans Manu Conso, ce sera à 6h20. Vous avez le programme de Charles Matin jusqu'à 6h30. On commence donc avec la météo, Géraldine, et une journée estivale.
Et c'est parti, hein, il va faire très beau aujourd'hui, même si ce matin on peut avoir quelques petits nuages qui traînent vers la Manche, vers les frontières de l'Est. Ils seront vite dégagés. À noter quand même pas mal de vent près de la Méditerranée, hein, Mistral, Tramontagne, jusqu'à 80 km par heure en rafale. Les températures, on est autour de 22 degrés déjà près de la Méditerranée ce matin. Cet après-midi, température en hausse dans l'Ouest. Alors on aura 24 degrés à Nancy, il fera 25 à Lille, 26 à Paris, Lyon, Nantes, 27 à Bordeaux, Toulouse, La Rochelle, 30 à Marseille, jusqu'à 32 à Montpellier et Bastia. Et puis toute la semaine, on va vraiment avoir ce plein soleil, des températures qui vont grimper de plus en plus, si bien qu'on aura une vague de